L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'atelier des médias sur RFI. Nous sommes cette semaine avec le petit Belge qui a secoué la présidentielle française. C'est ainsi que le quotidien bruxellois La Dernière Heure a surnommé notre invité, le chercheur en communication, spécialiste hors pair des réseaux sociaux, Nicolas Vanderbist.
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Bonjour Nicolas Vanderbist.
Bonjour.
Vous êtes chercheur spécialisé, on peut le dire, dans les crises sur les réseaux sociaux. On a beaucoup parlé de vous en France récemment parce que vous avez choisi de couvrir à votre manière, on va y revenir, les élections présidentielles et puis les différents phénomènes qui ont gravité autour de ces élections, notamment des phénomènes de désinformation, de fausses informations qui ont circulé. Mais avant de revenir sur ces éléments qui vous ont fait connaître, je veux bien qu'on s'arrête sur votre parcours. Vous avez un profil un peu particulier parce que vous êtes un académique, vous êtes chercheur, vous êtes en train de préparer une thèse, mais contrairement à beaucoup, c'est peut-être de plus en plus fréquent, mais quand même, contrairement à beaucoup, vous avez choisi d'évoluer dans le domaine des réseaux sociaux.
Mais au départ, on
vous était... Vous êtes assez jeune, hein,
je l'ai pas dit. Très jeune.
Très jeune,
oui, très jeune, 29 ans.
23.
Donc ça va. J'ai bientôt je ne pourrais plus dire très jeune, je pourrais juste dire jeune, mais là pour l'instant je peux encore dire très jeune. Non, c'était plus ou moins au début des masters, alors que ceux qui ne connaissent pas le processus académique, mais en master en fait il faut choisir ce qu'on appelle un sujet de mémoire. Très rapidement je me porte sur les questionnements des communicants à cette époque-là, et parmi ces questionnements on est en plein moment où il y a eu Greenpeace qui a lancé une grosse opération contre Nestlé et ses KitKat avec une grosse vidéo. Et là, personne ne comprend, il y a un certain questionnement, et en fait, quand il y a questionnement, c'est très intéressant comme sujet de mémoire. Et donc, je me porte rapidement sur ce sujet-là, mais plutôt dans la langue d'irréputation.
Non, de irréputation.
Ça fait très, ouais. très ringard de dire irréputation, mais à l'époque, c'était tellement trendy. Maintenant, on ne l'utilise plus du tout. Puis, petit à petit, je dois creuser dans le sujet, et j'arrive à mes crises de réputation sur des organisations, sur les médias sociaux. Et je me plonge comme ça en même temps. C'est-à-dire que, et c'est assez bizarre quand on me suit, mais pendant un an, j'étais sur Twitter tous les jours, pendant 2 à 3 heures, mais je n'ai jamais tweeté le moindre mot. J'ai juste observé les gens et observé les communautés.
Qu'est-ce que vous observiez? Comment vous observiez? Donc là, on est à peu près en 2013, enfin un peu avant.
2011.
Là. 2011, ouais. Ok. Donc 2 ans avant que vous lanciez votre blog sur la réputation, donc que vous professionnalisiez un petit peu cette démarche. Qu'est-ce que vous observiez à cette époque en 2011?
Beaucoup de gens qui parlent de choses qu'ils n'ont pas l'air de maîtriser. Pourquoi? Parce qu'en fait, le recul qu'on avait à l'époque sur les réseaux sociaux, il était minime. C'est un peu des gens qu'on avait pris là. Il y avait une page Facebook, incroyable. Donc on va te mettre là. Tiens, gère la page Facebook, et qui donc se mettent à parler des réseaux sociaux, mais sans vision stratégique et sans vision théorique des choses. Ce qui est d'ailleurs ce qui m'a orienté vers ma méthodologie, puisque là où la plupart des études qui étaient menées à ce moment-là faisaient des interviews de gens qui n'avaient aucun recul sur leur propre pratique, moi j'ai préféré en fait faire une base de données de 4 crises que j'ai continué il y a plus de 10 ans avec 500 cas. Et donc c'est à ce moment-là que je me dis c'est plus intéressant en fait d'observer à la fois les pratiques, les gens et les cas de façon très concrète plutôt que de faire d'autres méthodologies.
Donc vous focalisez surtout sur les crises, donc sur les problèmes, et en particulier sur la manière dont ça peut toucher la réputation, et encore plus particulièrement la réputation des entreprises à l'époque. Vous étiez surtout sur les... Vous parlez d'organisation, mais vous étiez quand même surtout sur les entreprises.
Oui, c'était beaucoup sur les entreprises, énormément d'ailleurs. Et c'était pas vraiment sur l'impact, mais c'était déjà la propagation qui m'intéressait le plus. Comment est-ce que ça se propageait? Comment est-ce que tout d'un coup, on avait des gens là qui se mobilisaient en groupe, alors qu'ils se connaissaient peut-être même pas avant, et qui avaient des logiques de réseau et des logiques d'implication. Et c'était plutôt comment est-ce que du côté des entreprises, on peut mettre en place un protocole qui va mettre en place quelque chose de l'ordre du stratégique pour gérer juste la procédure, et donc pas vraiment de comment garder sa réputation, comment garder ses sous, comment toujours vendre, ça m'intéressait pas vraiment.
Alors là, quand on parle de réseau, pour être précis, on parle surtout de Twitter, qui est un réseau ouvert, facile à observer, facile à analyser. Facebook est un petit peu plus compliqué, encore plus à cette époque, parce que à l'époque, il y avait beaucoup de profils, peu de pages, les pages se sont développées, une grande partie des profils étaient privés, les publications étaient privées, donc c'est beaucoup plus difficile, j'imagine, pour un chercheur d'évoluer dans Facebook.
Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est tout simplement les données. Si vous voulez analyser des données, vous avez besoin d'avoir un accès aux données. Alors en fait, tous les réseaux sociaux...
Ce qu'on appelle une API.
Oui, voilà.
Donc un accès à des masses
de
données.
C'est le tunnel en fait que met à disposition les réseaux sociaux vers n'importe qui est développeur. Et ces tunnels en fait nous donnent accès à certaines données.
Et donc vous déjà à l'époque, vous vous intéressez donc à ce qui se passe dans ces réseaux, mais vous voulez aussi vous connecter au tunnel de données pour faire venir les informations que vous pouvez observer de visu dans des tableurs, dans des tableaux qui vous permettent de classer, d'avoir...
J'étais pas encore aussi loin. Mais c'est les autres points qui m'ont plutôt amené à traiter Twitter que les autres. Donc il y a ces données, ça c'est la partie maintenant pourquoi ça m'intéresse le plus, mais il y a aussi le fait qu'il y a eu un âge d'or en fait des crises sur les réseaux sociaux via Facebook. C'était en fait, il y a un âge d'or où en fait vous likiez la page de Nutella ou de n'importe quelle autre marque et en fait vous étiez connecté. Là on pouvait parler de communauté, pourquoi ? Parce qu'en fait n'importe qui postait sur le mur de Nutella, les autres fans le voyaient. Et donc là, en fait, à cette époque-là, les crises, elles avaient vraiment un gros impact, puisqu'il y avait vraiment cette logique d'ouverture ou de village global où tout peut transiter et où tout le monde apprend une info et on n'a pas le contrôle. Et donc là, il y avait des grosses crises. Et puis petit à petit, Facebook a de plus en plus maîtrisé ses pages. Les commentaires des gens se sont retrouvés vraiment tout en bas à droite. Et donc Facebook a eu moins d'intérêt. Donc l'intérêt, il est double. C'est d'une part, il n'y a pas les données, et d'autre part, il n'y a plus cet aspect communautaire ou de village public global que représente Twitter. Parce que sur Twitter, on peut, pour n'importe quelle controverse ou autre, plus ou moins voir les forces en présence.
Alors, il y a, disons, deux manières de gérer des choses qui se passent sur Internet, et en particulier sur ces réseaux. Il y a une manière visuelle, hein, on va naviguer entre des comptes, suivre un mot-clé, etc. Et il y a une manière qui est celle des machines, hein, où on va donc regarder les données, donc essayer de les classer, y avoir accès, etc. Une des particularités de cette manière, donc j'ai appelé ça, enfin ça s'appelle une API, c'est le terme technique, donc un accès aux données de ce service, c'est que c'est ce service qui décide à quelles données on peut accéder ou on ne peut pas accéder. Il le décide et il change en permanence. C'est-à-dire que Twitter a à plusieurs reprises a décidé que on ne pouvait plus avoir accès à telle donnée ou que pour avoir accès à telle donnée il fallait faire ce type d'accord, etc. J'imagine que pour quelqu'un comme vous qui commence à travailler sur ce genre d'outils, c'est extrêmement compliqué déjà puisque en fait votre matière première et fonction du bon vouloir des espaces où vous évoluez, quoi.
Oui, il y a différentes contraintes. C'est là, c'est on est complètement esclave, sujet de ces plateformes. Si du jour au lendemain Twitter ferme ses données,
ils l'ont fait à plusieurs reprises. Des services entiers qui s'étaient construits autour des données.
Ah, il fut un âge d'or où en fait on avait accès illimité à l'API de Twitter.
Et donc vous, par exemple, en tant que chercheur qui travaille sur Twitter, vos scripts, ça va être quoi ? C'est programmer un logiciel qui va se connecter à la base de données de Twitter, donc à savoir les tweets, qui a tweeté, quel est l'historique du compte de cette personne, qui sont ses amis, etc. Et prendre de cette base de données les informations qui vous intéressent, donc par exemple, toutes les personnes qui ont tweeté tel mot, leurs différentes connexions, le nombre d'abonnés qu'elles ont, quand est-ce qu'elles se sont inscrites, etc. Et vous les mettre dans un tableur. En gros, c'est ça ?
Ça, c'est simple. Le problème qui est le mien, c'est que j'ai une propre vision de ce que je veux. Donc c'est moi ce que j'appelle la social network analysis, c'est l'analyse des réseaux sociaux où en fait je considère n'importe qui comme un point. Aujourd'hui vous êtes un point, je suis un point. Toutes les interactions qu'on fait en fait c'est des liens entre des points. Donc ça, c'est assez magique là, il y a des liens qui se créent entre nous là maintenant. Et en fait c'est bien parce qu'en plus la conversation elle a un sens, je vous parle. Ça veut dire que je peux compter mathématiquement le nombre d'échanges qu'on a. Je vous parle une fois, je vous parle deux fois. Et avec un sens, j'ai un lien rentrant et vous avez un lien sortant. Voilà, des trucs comme ça. Et donc, je peux dire, sur les réseaux sociaux, ceux qui sont les plus influents, c'est ceux qui sont beaucoup retweetés, qui sont beaucoup mentionnés ou qui sont beaucoup suivis. Donc, qui ont des liens entrants en eux. Mon point, c'est bien, maintenant, je peux lui mettre une taille en fonction du fait qu'il est ça. C'est bien, c'est des points partout, tout est noir, tout est terne. On peut mettre un petit peu de couleur peut-être là-dedans. Alors, comment est-ce que je vais utiliser la couleur ? En fait, j'utilise un autre algorithme, c'est pas moi qui l'ai créé, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, il va séparer tous ces points par communauté. Comment est-ce qu'il fait ça? En fait, c'est le fait qu'on ait beaucoup en commun et peu avec l'extérieur. Bah, je prends un exemple, mais à Paris, les gens ont beaucoup de connexions. Bruxelles aussi, mais les connexions Paris et Bruxelles, il y en a, mais elles ne sont pas aussi nombreuses.
Donc, mettre vert sur Paris et bleu sur Bruxelles, exactement. Si ça fait sens à ce moment-là pour vous. Ça peut être aussi vert pour les gens de droite, rouge pour les gens de gauche, ou des choses comme ça, si vous arrivez à déterminer ce genre de choses.
Oui, parce que c'est les pratiques, on retweet des gens de gauche, on retweet des gens de droite si on est de droite ou si on est de gauche. Le retweet, en fait, c'est quelque chose de très spécial d'un point de vue pratique. Vous reprenez un message tel quel et vous le mettez en l'endossant.
Ou en le critiquant, hein, parce qu'il y a aussi une manière de retweeter où on va faire un commentaire.
Oui, mais ça, c'est cité. Et donc, moi, d'accord, je ne prends pas forcément ces critères-là quand je le mets dedans. Et puis après, c'est bien. Hein, du coup, vous avez des points, ils ont une taille, ils ont une couleur, mais ça reste qu'un amas de points mis dedans. Ben, on utilise un troisième algorithme qui est un algorithme de spatialisation qui va spatialiser les nœuds, donc mes petits points. Et là, comment est-ce qu'il fait ? Ben, ceux qui ont le plus en commun avec l'ensemble du réseau, bah, les gens de Bruxelles et les gens Paris, eh ben, il les met au centre. Ceux qui sont les plus spécifiques, il les met sur les extérieurs. Et alors, comme ça, vous avez une cartographie.
Donc, à ce moment-là, on peut dire que votre site, votre blog, et même pendant longtemps, toutes vos interventions à l'extérieur s'intéressent particulièrement aux marques, donc aux crises qui touchent les sociétés, les entreprises. Et vous vous êtes intéressé aux crises donc, plus graves, donc en particulier les attentats, et vous avez observé la manière dont ces choses-là évoluaient, vivaient en ligne. Et vous avez même tenté ou proposé une théorie en 6 phases pour comprendre comment se passe un attentat ou comment on vit un attentat sur les réseaux sociaux et encore une fois, particulièrement sur Twitter et un peu moins sur Facebook. Est-ce que c'est plus difficile d'observer Facebook? Beaucoup de comptes sont fermés, on ne peut pas voir ce qui se passe, ce qui se dit.
Oui, là, il arrive le moment où en fait, il y a les attentats de Charlie Hebdo. Qui sont un des gros moments et où j'observe des choses qui se passent sur les réseaux sociaux et je me dis, avec le savoir que j'ai et les techniques, ça serait bête de pas analyser ça. C'était vraiment ça le cheminement de départ. Et donc je commence à faire, pour le coup, de l'ethnographie en ligne. C'est voir comment est-ce que les gens petit à petit évoluent, voir des marqueurs et faire un maximum d'analyses que je ferai à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a eu un attentat, je me suis replongé, mais en regardant d'autres aspects et d'autres choses. Et c'est vrai que la théorie des 6 phases, c'est quelque chose que je suis allé revoir, mais avec différentes lunettes. Vous savez, vous pouvez regarder un même phénomène, mais avec différentes lunettes. Cette première lunette de Charlie Hebdo était davantage ethnographique. C'est-à-dire comment est-ce que moi je l'ai senti. En regardant non-stop Twitter et en regardant les gens ensemble, quelle était pour moi la suite logique, comment les gens réagissaient.
Les gens étant les utilisateurs de Twitter, hein,
exactement,
et pas tout le monde. Hein.
Exactement, oui. Mais dans ces moments-là, et ce sera vraiment un des enseignements, tout le monde se tourne vers Twitter. Moi, je me souviens très très bien aussi d'autres attentats où je voyais des gens qui n'étaient jamais sur Twitter en Belgique, qui tout d'un coup s'activaient et qui regardaient et qui prenaient leur info là-bas. Et Twitter n'est jamais aussi fort que dans ces moments-là. Et là, on peut vraiment dire qu'on a plus moins vu.
Dans les moments d'immédiateté, hein, dès qu'on veut savoir ce qui se passe quelque part, je sais pas, on voit un hélicoptère dans un coin où on est et on veut savoir s'il se passe quelque chose, on se tourne vers Twitter parce que c'est la seule source possible.
Exactement, et aussi Twitter a cette capacité en fait aussi à dicter tout le tempo médiatique par la suite. On dit souvent Twitter, oui, mais c'est pas toute la population française, etc. Mais ce qui s'y trouve va se retrouver après à la TV, va se retrouver sous forme d'image, va se retrouver dans le traitement des journalistes absolument à tous les niveaux, et donc forcément va beaucoup marquer. Et donc c'est vraiment là où naît l'info.
On peut peut-être décortiquer les 6 phases. Je ne sais pas si vous arriveriez à le faire de manière synthétique,
sans problème.
Vous voulez que je vous les rappelle ou vous
non.
Bon,
alors là, je l'ai présenté au gouvernement français.
À la police française aussi.
Oui, à la police. Tous les communicants de la police française, je vais aller le présenter au gouvernement roumain, au gouvernement estonien et autres. Donc c'est vraiment... et par la suite, c'est ça qui est assez magique, c'est que je l'ai confirmé avec différents donc lunettes. Et les gens qui ont vécu les crises... on dit, mais c'est ce que j'ai vécu. Et ça, c'est vraiment la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Mais la première phase, c'est la phase d'information. Bah, tout le monde apprend à propos de l'événement. Et durant ce moment-là, en fait, les hashtags, vous savez, c'est là où on se réunit sur Twitter,
les mots-clés,
en thématiques,
hein,
et autres, seront vraiment neutres. Ce sera par exemple Paris, ou le lieu où ça
Bataclan,
se passe. Ou attentat, bon.
Charlie.
Exactement. Puis après, petit à petit, les gens vont comprendre l'information. On va en apprendre un peu plus. On va apprendre peut-être qu'il y a 1 mort, 2 morts et autres. Et on va passer plus en phase d'émotion.
On va être inquiet parce qu'on ne sait pas.
Exactement, on va exprimer des émotions, ça peut être l'anxiété, ça peut être la peur, la tristesse, toutes les émotions, et ça se voit des fois de manière assez frappante, avec même des images, avec des larmes et autres. Et puis, comme on n'est pas égaux par rapport à l'information, il y a des gens qui l'apprennent avant que d'autres. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai une anecdote, c'est qu'au moment des attentats de Paris en novembre, on a un match de foot en Belgique, c'était Belgique-Italie, et ça fait plus ou moins 45 minutes qu'on a appris ce qui s'était passé à Paris, toutes les notifications ont été faites. Et là, on a le ministre des Affaires étrangères belge et le premier ministre belge, qui a priori doivent être quand même les personnes les plus informées sur les situations, qui tweetent leurs félicitations à l'équipe nationale de Belgique pour le beau match qu'il y a eu. Rapidement, 15 minutes après, ils se sont rendus compte de la bourde et ont supprimé. Mais ça montre qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'information. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vivent à côté d'un bureau, il y a des gens qui ont des smartphones, il y en a qui n'en ont pas. Et donc forcément, on va avoir cette période où on va osciller entre information et émotion dans les productions qui vont être faites sur Twitter. Puis, petit à petit, voilà, on a appris comment ça s'était passé, on a exprimé des émotions. On va vraiment avoir cette partie, et vraiment du côté des professionnels qui gèrent les crises et autres, vont le sentir énormément, c'est la partie d'organisation. C'est-à-dire qu'on veut aider, on veut être en groupe, on veut faire lutte, et donc on va se réunir autour d'éléments de langage commun. Ça peut être la liberté d'expression, le drapeau français ou des éléments comme ça.
Ça peut être porte ouverte
Oui, ou Paris, des hashtags d'organisation.
Parce que des personnes
je suis Charlie,
pas...
porte ouverte, recherche Paris et autres. Mais les gens vont s'organiser. Et du côté des
Alors,
autorités.
Porte ouverte, juste pour rappeler, c'était donc comme des personnes ne pouvaient pas rentrer chez elles, des quartiers entiers de la capitale étaient bouclés. Donc d'autres personnes ont proposé de les accueillir avec le.
C'est
le
Sylvain Lapoix qui a lancé ce hashtag comme ça, parce qu'il se dit il faut aider et autres. Et il a reçu même des gens sur place. Et donc il a créé quelque chose. Et ce sera même un phénomène médiatique par la suite, parce que à Nice, par exemple, il y a eu la même chose dans les médias. Tout le monde disait oui, tout le monde s'organise via porte ouverte, c'est très intéressant. Là, là, il y avait personne qui avait besoin. Il y a des moments où on en a besoin, il y a des moments où on n'en a pas besoin. Là, on en avait un besoin, mais après, on n'en a plus forcément eu besoin. Et donc, ça crée petit à petit des structurations, parce que le Recherche Paris, le Porte Ouverte, ils reviennent à chaque fois. Et maintenant, on a le Pray for X qui revient à chaque fois, et certaines monotonies qu'on observera par la suite. Bon, une fois qu'on s'est organisé, bon, il y a plus ou moins 24 heures, même plus, qui se sont écoulées, bah, tout le monde ne parle que de ça. Twitter parle de ça, les médias, tout. Donc, vous êtes un compte sur Twitter, vous avez en discuté, vous n'avez rien discuté en dehors de ça. On a d'ailleurs sur les forums de community managers, c'est assez frappant, beaucoup de community managers qui disent bon, je sais qu'on ne peut pas communiquer, vous pensez qu'on pourra recommencer à communiquer quand tout le monde est au chômage technique, etc. Bon, certains tentent, hein. Je suis Charlie par exemple, on a eu Je suis Charlie avec un T d'une marque de literie, on a eu des choses comme ça dans l'intérêt. On a aussi des gens qui vont essayer d'en profiter. Alors, on a typiquement, on
ça,
a
c'est
des
la
artistes.
Phase d'intérêt hein, que vous décrivez.
Hein. Exactement,
la phase d'intérêt. Tout le monde est dessus et donc,
tout le monde essaie d'en profiter à son propre avantage. On a des caricaturistes qui, tout d'un coup, envoient à tout le monde. On a des artistes qui ont déjà une collection spéciale pour ça. On a des choses en vente, des t-shirts, tout ça. On a, pour le Bataclan, on a comme par hasard quelqu'un qui passe avec un piano. C'est vrai que le piano est l'instrument le plus itinérant au monde. Il se baladait par là, il a vu de la lumière. Tiens, j'arrive les gars, j'ai mon piano avec moi pour chanter Imagine the People. Et tous des éléments comme ça, vraiment, ou des reprises de citations. Et tout le monde essaie de se montrer et autres. Et c'est aussi la phase d'intérêt dans la presse parce qu'on va avoir des nouveaux éléments, on va avoir vraiment des scoops qui vont lancer la première vidéo qui montre les éléments et tout ça. Puis, passé cela, on va avoir la dernière phase qui est la phase de désorganisation. C'est-à-dire qu'on s'est tous organisés autour d'éléments de langage commun et tout le monde qui était discordant était pointé du doigt en disant c'est pas bien ce que tu fais, il faut être Charlie et autres. On va avoir des gens qui vont commencer à sortir de la masse. Après, il faut pas risquer un peu trop religieux. Moi, je suis pas Charlie, j'aime pas ce qu'ils font. Et tous des éléments comme ça, où les gens vont commencer à sortir de la masse. Et la désorganisation va s'opérer. Et elle va s'opérer aussi avec des groupuscules d'extrême droite qui vont profiter de ces éléments-là. Et ils le font toujours, c'est Islam hors d'Europe. C'est comme vous avez des hashtags qui sont surutilisés. Vous savez, il y a le trending topic, les tendances émergentes sur Twitter. Les tendances émergentes, c'est pas le sujet le plus discuté. C'est le sujet le plus tendance par rapport à la situation antérieure. Le problème, je suis Charlie, tout le monde l'utilise. Paris, Charlie Hebdo ou des trucs comme ça. Et donc, petit à petit, ces mots-clés bah, disparaissent un peu alors qu'ils capitalisent toutes les conversations. Et donc, en fait, l'extrême droite va profiter de ça et va lancer le hashtag Islam hors d'Europe. C'est très facile pour eux d'être en train d'estopier, il suffit d'avoir 300 personnes ou 400 personnes qui le font monter.
On va revenir sur ça.
Et alors, les gens voient ça en tendance et disent enfin c'est scandaleux, regardez il y a ça et autres. Et à la finale vous avez quoi? Vous avez un hashtag qui a été propulsé toute la journée entière, mais où 95% des productions en fait sont des gens qui critiquent le hashtag et pas des gens qui en font la promotion.
Courte pause, restez avec nous. D'ailleurs, Nicolas, nous n'avons pas encore abordé vos plus grands faits d'armes, le démontage des intox anti-Macron de la campagne présidentielle française. Nous en parlons dans la deuxième partie. À tout de suite.
L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec le chercheur belge en communication, spécialiste des réseaux sociaux, Nicolas Vanderbist.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Très naturellement, donc après avoir observé les phénomènes liés aux attentats, de discussion, de la manière dont ça se répercute en fait sur la vie des réseaux sociaux, sur Twitter, etc., vous vous intéressez aussi, et vous l'évoquiez presque, hein, aux mécanismes de rumeurs. Pour l'attentat de Nice, vous décidez d'analyser, non pas dans ce cas-là, la manière dont les gens réagissent, mais comment, à partir des attentats, tout le monde sait qu'ils ont eu lieu, vont naître toute une série de rumeurs, et là vous choisissez de retracer le parcours de la rumeur, d'où elle vient, comment elle se propage, etc., etc.
C'est un peu ce que j'ai dit, je retourne à chaque fois dans les attentats comme un nouveau terrain où je peux observer différentes choses, et là je décide vraiment, parce que je l'avais fait en surface, d'analyser les rumeurs. Je veux voir comment naissent des rumeurs sur Twitter, est-ce qu'elles naissent sur Twitter d'ailleurs, et donc j'analyse les cas des prises d'otages à Nice et aussi par la suite aussi des faux mouvements de foule ou des faux attentats, toutes ces choses-là, de voir comment elles se construisent. Et je trouve ça extrêmement intéressant, parce qu'en fait, elles ne naissent pas forcément sur Twitter, elles sont des micmacs. Twitter, c'est la surface, il y a des SMS qui circulent, il y a des choses, et puis il n'y a pas de volonté forcément méchante, vile, c'est des différences de perception. Il y a toujours en fait un vrai événement qui se passe. Ça peut être une explosion, ça peut être le fait qu'en fait on voit beaucoup de gens qui sont fermés avec la police devant et autres. Et c'est dans la qualification de la perception que l'on va mettre ce qu'on appelle une rumeur, parce qu'en fait les faits sont vrais, mais c'est la qualification qui va
pas
être la même.
Il y a une origine. Voilà. Il n'y a pas forcément une volonté de diffuser de fausses informations. Il y a une mauvaise interprétation de quelque chose qui se
bruit,
passe en général. Mais il y a aussi des personnes qui font exprès de diffuser des fausses informations à ce moment-là.
Il y a ça. Il y a l'extrême droite. Ouais. Dedans, ça c'est clair et net. Donc vous entendez un bruit, ça peut être une explosion, ça peut être une fusillade, ça peut être autre chose. Mais sur Twitter, vous allez mettre fusillade. Et les gens qui sont pas sur place et qui n'ont pas vu vont voir fusillade. Et donc vont commencer à propager ces choses-là. Comme il y a du bruit, comme il y a des éléments qui font penser à un attentat, en fait, on va avoir des éléments extérieurs qui vont venir sur place. Vous avez le GIGN qui va se bouger, vous avez des hélicoptères dans le ciel. C'est comme ça qu'à un moment, j'observe avec vraiment étonnement quelqu'un qui dit il y a un attentat. Quelqu'un dit « Mais tais-toi, tu n'y connais rien, il n'y a pas d'attentat, il n'y a rien. » Et qui répond « Et ça, c'est quoi alors ?» avec une photo d'hélicoptère dans le ciel, en disant « C'est la confirmation de ça. » Et puis, petit à petit, on va voir les premiers éléments qui vont infirmer les premières choses. Et enfin, l'information officielle comme quoi c'était une fausse rumeur.
Et dans le cas des attentats de Nice, en fait, autour du vrai attentat, où là, personne n'avait de doute sur ce qui s'était... Enfin, sur les images qui avaient déjà circulé, sur ce camion qui avait renversé des dizaines de personnes, là où il s'est créé toute une série de rumeurs, il y a une prise d'otage à tel endroit, il y a... etc. Et c'est ça que vous avez choisi d'observer.
Oui, j'ai observé les faisceaux de rumeurs, parce qu'il y a eu le Méridien, il y a eu un Buffalo Grill et autres. Et d'ailleurs, c'est assez marrant d'observer, parce que j'ai vraiment fait une étude complète sur le sujet, et je vais bientôt revenir dessus sur mon blog avec cette étude et beaucoup plus d'éléments. Mais beaucoup de gens qui, par exemple, se moquent, qui n'ont plus de respect, une prise d'otage au Buffalo Grill, en fait, des commentaires sur ça. Qui vont nourrir finalement la rumeur, et surtout auprès des jeunes. C'est vraiment les jeunes.
Donc les gens qui disent il n'y a plus de respect, c'est une plaisanterie en
oui,
fait.
Oui, c'est ça, il n'y a plus de respect, Buffalo Grill, ou encore des gens qui mangent le Buffalo Grill, enfin tous ces éléments-là, et des blagues qui sont faites par des jeunes qui n'ont pas forcément conscience que par leur production, ils nourrissent une rumeur. Et je crois que c'est au moins 70% qui sont des jeunes durant la propagation de ces rumeurs, et 15% d'extrême droite.
Donc là, on parlait des rumeurs, la manière dont elles naissent, souvent avec donc pas de mauvaises intentions. Il y a aussi les trolls, je l'ai abordé rapidement. Vous publiez par exemple un article qui dit « Comment un jeune troll parvient-il à placer des rumeurs et des hashtags sulfureux en trending topics ?» Et là, vous, donc, c'est la mauvaise intention. Là, vous expliquez comment des personnes physiques peuvent à elle seule, ou parfois avec l'aide de complices, faire sortir des rumeurs, ou faire donc ce qu'on appelle des trending topics, donc faire qu'un mot, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je déteste l'islam ou je sais pas quoi, apparaisse comme quelque chose qui est discuté par de nombreuses personnes alors que c'est complètement fictif.
Oui, parce qu'en fait, c'est des gens qui ne se rendent pas compte, ils font ça pour s'amuser, c'est aussi des jeunes. Et d'ailleurs, il a récidivé avant-hier en faisant un trending topic qui était journée officielle contre les PD.
Oui, il s'appelle, je vous cite, il s'appelle Ulrich, il vit à La Réunion, donc ça c'est ce que vous savez, son passe-temps favori est de créer des trending topics sur Twitter, des hashtags homophobes comme journée contre les PD, des rumeurs comme la fermeture de l'école le lundi, que le gouvernement français doit contredire, ou le fait que McDonald's soit gratuit, ou encore des hashtags plus légers comme la journée de la chatte. Et donc ça c'est une personne qui essaye de sortir ces mots-clés, de les faire marcher sur Twitter.
Et moi, le but là-dedans, c'est de déconstruire, c'est de montrer aux gens comment ça se fait, comment ça se passe, et pouvoir le ressortir comme je l'ai fait avant-hier pour dire il a récidivé, c'est de nouveau le même, regardez comment est-ce qu'il fait. Et donc, ne pensez pas forcément qu'il y a une France anti-homosexuelle qui s'exprime et qui vraiment fait la promotion sur Twitter d'idées aussi abjectes.
Et vous le faites de manière scientifique, c'est-à-dire que vous reprenez les données de Twitter, vous voyez que c'est lui qui l'a créé, vous regardez les personnes qui ont relayé à nouveau, vous découvrez que des comptes venaient d'être créés, probablement par lui aussi, parce que les seules personnes qui suivent ces comptes, c'est lui, etc. Et donc, vous, en fait, scientifiquement, vous montrez que c'est sûr que c'est lui qui l'a créé de manière artificielle, et c'est probablement lui aussi qui a répandu cette chose-là de manière artificielle également.
Oui, je mets en place un dispositif pour analyser des cas. Et donc, en fait, autour de lui, je l'ai observé comme ça pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, j'ai récupéré toutes les choses pour voir les concordances et pour voir les gens qui étaient toujours pareils et voir si c'était toujours les mêmes techniques. Et effectivement, du coup, j'arrive à isoler un modèle que je peux proposer et dire il fait comme ça, avec tel compte, et il le fait de telle façon et autre.
Dans vos pérégrinations, vous découvrez également Philippe Plateau, qui est donc un robot, un bot, comme on dit dans le jargon, qui fait de l'astroturfing. Alors, il faut expliquer ce terme que je ne connaissais pas avant de le rencontrer, pour les idées, on va dire, du Front National.
Ok, bon, commençons par le commencement, avec l'astroturfing, qui est déjà une belle chose, et qui a été un des trucs où j'ai commencé à migrer. Parce que si on se souvient bien, j'étais dans mes entreprises, puis après j'ai fait les crises et autres.
Ouais,
mais là,
bon,
j'ai commencé à observer en fait des choses.
C'est une marque AstroTurf à la base.
Exactement. Il y a vraiment la société qui est touchée par des entreprises qui font des trucs de lobby. Ce sera le cas des attentats, ça sera le cas des présidentielles et autres. Et c'est comme ça que petit à petit, je migre autour de ce concept d'AstroTurfing. Alors, l'AstroTurfing, c'est quoi? Ça vient à la base d'un produit de Monsanto qui s'appelle l'AstroTurf. L'AstroTurf, c'est quoi? C'est du gazon synthétique. Et en fait, à un moment, dans les stades de football américains, on a remplacé du vrai gazon par du gazon synthétique, l'AstroTurf. Et en fait, dans la littérature scientifique, quand il y a des mouvements citoyens qui naissent comme ça dans la société et qui commencent à grandir, on appelle ça du grassroots movement, des mouvements qui viennent de la terre, du debout, des choses comme ça. Et donc c'est une opposition en fait entre ces grassroots movement, des mouvements qui viennent de la terre et autres, avec le gazon synthétique où tout est faux. Et du coup, il y a plusieurs trucs qui peuvent être possibles. Vous créez des faux comptes. On a quand même comme ça, durant l'achat de Club Med, vous aviez 2 candidats au rachat de Club Med, un Italien et un Chinois. Et en fait, vous aviez une agence d'influence française qui avait comme ça créé pendant 1 an des faux profils qui écrivaient sur Huffington Post et des pure players et qui s'était activé en fait pour faire des campagnes de dénigrement de l'acheteur italien pour que les Chinois gagnent. Donc ça a vraiment un gros impact de plus en plus. Il y a eu également...
Donc l'astroturfing, c'est en fait des campagnes complètement artificielles en ligne qui veulent donner l'impression qu'il y a une mobilisation des gens, mais en fait tout
est
faux.
Vous pensez que c'est populaire, vous pensez que c'est massif, vous pensez que c'est le peuple qui s'exprime, alors qu'en fait là derrière tout est faux, tout est manigancé et autres. Et vous avez différentes techniques, donc celle-là elle en est une, c'est ce qu'on appelle le suck puppet, c'est la création d'identité numérique complètement fausse. Il y a eu un autre exemple avec Amnesty International qui en fait avait été contacté par une ONG qui avait pignon sur rue, qui avait une page Wikipédia, qui avait des articles dans la presse, qui avait des profils LinkedIn pour les membres qui la composait, mais tout était faux. Tout était créé de trucs. Et en fait, ils voulaient observer toutes leurs infos autour de la construction de stades au Qatar. Donc là, se pose aussi la question, est-ce que c'est les Qataris qui l'ont fait? Parce qu'à un moment, ils ont voulu les hacker. Ou alors, en fait, vu que la tentative de hacking était mauvaise, c'est quelqu'un qui voulait faire croire que c'était les Qataris pour qu'à un moment, ça sorte dans la presse. Voilà.
On ne sait jamais. Voilà.
Tout est résumé par sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. Donc voilà, ça c'est le sock puppet, création de fausses identités numériques. Vous avez vu les faux sondages. Voilà, il y a un sondage sur un site de presse, tout le monde va aller, ou alors on triche même avec des scripts et autres, et on arrive à faire pencher la balance où on veut. Vous avez également tout ce qui est des campagnes numériques justement pour faire monter en trending topic quelque chose, dans le but de faire avancer un agenda politique. L'extrême droite fait ça très très bien. On a également eu, et c'est un de mes premiers cas, donc le premier c'était le bikini de Reims en 2014 par l'extrême droite, avant le burkini, mais c'était la même chose, les mêmes éléments, tout pareil. Et puis on a eu Tel Aviv sur scène, où on a quand même eu un dépêchement de 100 policiers en plus, qui était le premier cas où j'ai vraiment eu un grand... C'était assez dingue, puisque sur 89, je crois qu'il y avait 180 000 vues sur l'article, quelque chose d'assez fort, et où j'avais dit ça passera rien, tout ça c'est du vent. Et effectivement, à midi, vous aviez quelqu'un du JT de France 2 qui était là. Oui, ça commence à se masser du côté des protestants, ils sont là derrière moi, il y a du bruit, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus. Et puis à 20h, même pas un sujet, même pas une évocation, il s'est absolument rien passé. Il y a même eu moins de personnes à cette mobilisation-là, malgré tout le ramdam médiatique qu'il y a eu, que pour d'autres manifestations d'Israël. Et donc voilà, vous avez plus ou moins autour de ça. Maintenant, c'est des libertés que je prends avec la notion d'astroturfing, puisqu'au départ c'était simplement par exemple des envois au courrier des lecteurs ou des choses comme ça, et je dis ces manifestations politiques 2.0, parce qu'ils peuvent se réunir, créer tout ce qu'ils veulent, eh bien, elles sont de plus en plus utilisées pour faire croire à un mouvement populaire massif pour peser sur les politiques. Et donc moi je veux déconstruire, c'est-à-dire, ils peuvent très bien faire leurs manifestations, mais moi je peux aussi très très bien déconstruire et dire, regardez comment est-ce qu'ils font, en fait il n'y a que ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Et ils utilisent notamment, pour revenir à ma question, des personnages comme Philippe Plateau, qui est donc un robot. On crée des...
Exactement. Alors Philippe Plateau, lui, pendant la campagne, il faut savoir que cette campagne a été quand même marquée par l'essor des études
sociaux. La campagne présidentielle française.
Hein. Exactement. Vous aviez des études sur les réseaux sociaux tout le temps. Vous avez même eu un sondage Filterisk qui était basé sur les réseaux sociaux et autres. Et en fait, lui... Mais c'est comme vous voulez, vous savez, quand vous votez une fois normalement, et quand vous avez voté, c'est fini. Bah, sur les réseaux sociaux, dans ces études-là, vous pouvez voter 5000 fois. Hein. À ma Philippe Plateau, c'est ce qu'il faisait. Il le faisait, pourquoi? Parce qu'il a été suivi d'abord pour avoir plus de poids selon les algorithmes de Twitter, en achetant je ne sais plus combien de milliers de fans, mais c'était
énorme, avait 110
du Pakistan.
000,
voilà, 110 000 du Pakistan, de l'Iran, etc., qu'il avait acheté, et qui pouvait aussi le retweeter comme il voulait. Le record qu'il a eu, c'était 5550 retweets.
Presque un score de Barack Obama.
Ah
quoi.
Oui, là, c'est-à-dire il était toujours dans les premiers tweets et autres, mais en Philippines. Et il avait également la technique de notre petit troll de La Réunion, puisque il avait aussi 110 comptes qu'il activait lui-même. Il y a un petit outil comme ça sur Twitter qui s'appelle TweetDeck, où vous pouvez envoyer un même message mais différents comptes. Et lui, il avait rajouté 110 sur le coup. C'est un travail de bénédictin. Et donc, il pouvait comme ça influencer les études sur les réseaux sociaux, ou même arriver dans les hashtags comme étant une personne de confiance. We'll be right back.
L'atelier des médias.
Arrive maintenant le sujet qui aurait pu être le seul dont on allait parler, mais finalement on va en parler brièvement parce que vous en avez parlé un peu partout. C'est le cœur de la campagne et peut-être la dernière ligne droite où il y a eu deux attaques mémorables contre Emmanuel Macron. Deux attaques pour lesquelles vous avez joué un rôle pivot. Il y a même eu des articles en Belgique qui disaient le petit Belge qui a influencé les élections françaises, etc. Enfin, qui, je ne sais plus quelle était la formulation, je suis sûr que vous en souvenez.
Je sais même.
Vous savez plus non plus, c'est pas grave.
C'était le petit Belge, ça oui.
Ouais, ça c'est sûr. La première histoire, il y en a certainement eu avant que vous avez observé, mais notable, c'est l'histoire donc d'Emmanuel Cahuzac ou de. Oui, c'est ça, c'est
oui,
Emmanuel Cahuzac.
Oui, c'était ça, oui, exactement.
Je sais plus si c'était
en gros,
le
c'est
prénom
une collusion.
Et...
Oui, non, c'était ça. Oui, c'est plus. Je crois que c'est Emmanuel Cahuzac, mais ça pouvait. Oui, c'est vraiment ça. Oui. C'est Emmanuel Cahuzac. Donc en fait, et ça, c'est assez fort. Puisque en déconstruisant, si vous voulez, il y a un cheval de Troie. Alors, vous voyez le principe du cheval de Troie, on met on
offre quelque chose à l'intérieur,
on le met à l'intérieur, et puis après, une fois qu'il est rentré, boum, il y a des soldats qui rentrent et ils tuent tout le monde. Ben, c'est plus ou moins la même chose. Alors le cheval de Troie ici dans notre histoire, c'est quoi? Ben, c'est le blog de Mediapart. Vous savez, quand vous payez l'abonnement à Mediapart.
Le club Mediapart, ouais. Donc là où tout le monde peut contribuer.
Exactement.
Voilà. Ce qui est un vrai problème, parce qu'en fait, quand on voit les articles, on a l'impression que ce sont des articles de Mediapart, à part qu'il faut lire une mention qui dit en dessous que ça n'est pas un article de la rédaction, donc qui n'est pas assumé, et que c'est le club et que ce n'est pas Mediapart.
Il y a un article qui fait une collusion entre Cahuzac et Macron.
Cet article de Mediapart, donc pour les gens qui ne voient pas la différence avec Mediapart, qui est signé par un pseudonyme, on ne sait même pas qui c'est, dit que, en gros, Emmanuel Macron a des comptes cachés à l'étranger. C'est pour ça que quand on revoit tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il déclare, l'argent qui manque, c'est à l'étranger, etc. Et donc, à partir de ce faux, puisque c'est un faux, en tout cas, le contenu est faux et il joue sur une ambiguïté, il va se construire donc tout un astroturfing, je ne sais pas si c'est le mot.
Oui, toute une rumeur. Pour le coup, on peut le dire, c'est la deuxième phase. C'est la phase de société écran. C'est quelque chose qui a vraiment été utilisé dans une autre rumeur dont on reparlera par la suite, mais peut-être, autour du financement par l'Arabie Saoudite, ce qui était vachement plus intéressante en termes de tentative que ici Mediapart. Et je me lève, et moi je suis tous les cons de l'extrême droite, ceux qui sont les centraux, et je vois en fait qu'un des comptes en question a fait un screenshot de Mediapart en disant Mediapart sort une affaire.
Capture d'écran, screenshot.
Ouais, une capture d'écran. Donc je vois cette capture d'écran de Mediapart et quelqu'un qui dit Mediapart sort une grande affaire, etc. Et je dis, je cite et je dis, les malins, ils ont utilisé les blogs de Mediapart. Et en fait, j'aurais pas dû faire ça parce que je m'étais pas douté de ce qui s'était passé avant. Et c'est par la suite qu'en fait, je remarque qu'il y a eu pendant la nuit plus de 70 comptes qui ont été créés comme ça et qui ont eu but de s'activer le samedi matin. Parce que vous savez, le samedi matin, il y a plus de gens qui dorment, donc c'est plus facile d'être en tendance émergente. Et qui s'active à partager cet article. Et on était vraiment au début de l'opération où il y a un des comptes plus ou moins importants qu'il avait tweeté. Après mon tweet, en 40 minutes, tous les comptes avaient été supprimés, enlevés et autres. Et donc, en fait, j'aurais pu observer plus loin, mais ça s'est arrêté là. Et donc, ça offre vraiment une société écran. Il n'y a pas d'autre mot.
D'accord. Donc, le billet Mediapart est publié. 70 faux comptes le retweet comme si c'était quelque chose. Et là, capture d'écran par un vrai compte qui s'en lave les mains puisque c'est pas du tout lui le premier qui l'a, etc.
Exactement. Et le compte parodique, Emmanuel Cahuzac, qui s'affiche également par la suite puisque un compte avait vraiment été créé au même moment. Et on peut plus ou moins dire là, par contre, qu'il y a quand même des similitudes entre les deux comptes et au moins des connexions qui peuvent se faire.
Donc vous montrez en gros toute votre petite enquête dans laquelle vous vous êtes spécialisé pour démonter cette rumeur et du coup vous la faites tomber assez rapidement quoi.
Oui, moi mon dispositif il était clair durant toute la présidentielle, c'est que je ne peux pas me permettre, vous savez la science ça met longtemps, normalement c'est un mois, moi j'étais assez court en faisant un jour des fois, voire deux, mais là je ne peux pas attendre un jour avant de diffuser, il faut être pour moi dans le même moment.
Comment que la vous avez fait, vous aviez quelqu'un qui vous aidait ou
Non, rien du tout.
Vous
mais
ne dormiez pas,
c'est
ou...
en quelque sorte mes Jeux Olympiques. C'est-à-dire que moi, ça fait 3-4 ans que je fais que ça. Je ne fais pas du fact-checking. Je ne vérifie pas des faits. Prouvez-moi qu'Emmanuel Macron n'a pas de compte Bahamas. Je ne sais pas prouver. Prouvez-moi qu'une licorne euro, ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Moi, ce que je fais, c'est le selon. Vous voyez cette rumeur-là ? Elle s'est propagée comme ça, par des comptes qui sont connus pour ça et pour ça et pour ça. Et regardez comment est-ce qu'ils ont utilisé pour essayer de vous flouer.
Autre fait d'armes, votre dernier dans la campagne présidentielle française, c'est par hasard, ce sont les Macron Leaks qui sont sortis le vendredi soir. Le samedi, personne dans les médias audiovisuels n'en parlait parce qu'on ne savait pas si on avait le droit d'en parler puisque ça allait peut-être influencer. Donc là, ce sont des vraies informations qui ont été volées aux équipes d'Emmanuel Macron, des mails, etc., qui ont été publiées massivement. Et là, pareil, vous avez donc immédiatement réagi en montrant le cheminement du partage de ces informations. C'est-à-dire que vous n'avez pas analysé les Macron Leaks, vous ne saviez même pas si c'était vrai ou si c'était faux ce qu'il y avait dedans. Il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de vrai et un peu de faux. En revanche, vous avez montré le parcours, qui était lui-même, à vos yeux, déjà assez significatif pour montrer qu'il y avait une volonté de nuire, qu'il y avait peut-être des origines d'extrême droite américaine, etc.
Alors, pour les Macron Leaks, j'étais très à l'aise. Pourquoi ? Parce que quand j'observe la propagation, et je le fais très très vite, je remarque le même schéma que deux jours avant, autour de la rumeur comme quoi Emmanuel Macron aura un compte aux Bahamas. C'est-à-dire que ça naît sur 4chan, c'est propagé ensuite par Disobedient, qui est un média d'alt-right américaine, vraiment nationaliste américaine, puis c'est propagé par un gros compte des nationalistes américains qui s'appelle Jacques Posobiec, qui était déjà en fait à l'œuvre autour du Pizzagate. Donc vous savez, c'est une rumeur comme quoi en fait il y avait un réseau de pédophilie ou dans le truc démocrate et autres qui était faux également, et puis ça se propage dans les communautés francophone d'extrême droite, et plus ou moins, sauf que pour les Macron Leaks, c'est une étape supérieure. C'est-à-dire que c'est le même cheminement, c'est les mêmes comptes, c'est la même chose, la même propagation, sauf que là, j'ai carrément les comptes de riposte du Front National. Les comptes de riposte, c'est quoi ? C'est en fait, quand il y avait des opérations du Front National sur les réseaux sociaux, réunissons-nous à 18h pour tweeter tel slogan contre tel candidat et autres, donc c'est des gens qui se sont affichés comme presque officiels du parti, ben là, en fait, ils font partie du job et seraient sur le gâteau. Peu de temps avant minuit, 23h40, j'ai également Florian Philippot, qui tweete la chose, bientôt suivi par des cadres du Front National, juste avant la limite des minuit. Donc j'ai la même chose, mais en plus là, on signe en quelque sorte le crime par la suite.
Alors le crime, c'est une manière de voir, parce que il s'est avéré que ça a été perçu comme une véritable volonté de déstabiliser, venant en plus de l'extérieur, puisque les premières personnes à partager venaient des États-Unis, avec des soupçons, et d'ailleurs ça c'est quelque chose sur lequel vous revenez, les soupçons d'implication étrangère sur, donc on a beaucoup parlé de la Russie, vous avez consacré un article récemment, et je ne sais pas à quel point on peut parler de l'implication étrangère dans la campagne présidentielle française, à quel point vous, avec vos éléments, vous pouvez en parler.
Ben là, c'est la première fois en fait que ça vient de l'étranger. Déjà, c'est une chose. En plus, la concordance avec le fait que Marine Le Pen l'évoque en plein débat. Et là, il y a aussi tous les journalistes du pays qui sont en train de rechercher et de faire une collusion entre ces réseaux de l'extérieur et Marine Le Pen. Mais personne n'y arrive. Ils tentent de me le faire dire, mais non, j'ai pas d'éléments. Là, je l'ai.
Et oui, mais en fait, ça se passe sur Twitter. C'est pas une preuve extraordinaire.
Exactement.
Que Florian Philippot retweete quelque chose, ça arrive.
Là, il le sait quand même que deux jours avant, c'était la même propagation et la même chose. Et là, il s'affiche à côté. Voilà. Ou alors, c'est une erreur de sa part. Sur le degré international de l'affaire, en fait, si on observe, moi j'avais fait une étude sur les gens qui partageaient le plus Russia Today et Sputnik, qui sont des médias financés par la Russie et autres, qui ont une vision très spéciale de l'actualité. Et en fait, si on regardait les gens qui étaient les plus actifs à retweeter et partager Russia Today et Sputnik, et on le compare aux gens qui, dans la communauté francophone d'extrême droite, l'ont partagé, ben il y a des concordances très très hautes, autour de plus de 60%.
Nicolas Van Der Bis, il nous reste vraiment quelques secondes, une minute ou deux minutes. J'avais beaucoup de questions à vous poser, mais je vais les résumer en une seule et vous choisirez de dire ce que vous souhaitez. Il y a deux éléments, en tout cas, qui me semblent importants. D'abord, ça peut être assez nauséabond de travailler sur ce qui se passe sur Twitter en ce moment. Qu'est-ce qui vous motivait dans ça ? Et l'autre chose, il y a quelque chose peut-être d'ingrat. Ce sont quand même des univers extrêmement mouvants, c'est-à-dire qu'une spécialisation nécessite au minimum de se mettre à jour presque tous les jours. Et il y a beaucoup de chances même qu'elle soit totalement perdue du jour au lendemain si Twitter, par exemple, décide de fermer ses API ou de changer encore la donne, etc. Qu'est-ce qui vous motive et comment vous percevez toutes ces choses-là ?
Le côté technique, c'est clair qu'il peut évoluer. Les plateformes changent tout le temps et les tunnels aussi. Maintenant, il y a un savoir qui est développé grâce à ces techniques sur le côté qui, lui, restera jamais. Dans les techniques d'influence, dans l'analyse, dans la crise, dans la gestion de l'info, ça restera jamais. L'autre aspect, sur le côté ça doit pas être facile et autre, mais moi, je me pose pas vraiment la question. Moi, je me suis dit juste, j'ai développé un savoir technique, j'ai développé des compétences, des connaissances qui me permettent de réagir en moins de 2 heures et qui apparemment fonctionne bien. Donc moi, je réfléchis pas midi à 14 heures, j'y vais, il y a de la lumière, on fonce et puis après on y va. Donc ici, c'est aussi le fait que de trouver un bon ennemi. Parce que s'il n'y a pas toutes ces techniques-là, ça sert à rien. Moi, je dis souvent pour la réputation. Batman sans le Joker, c'est juste un connard en slip. Je pense que c'est plus ou moins la même chose. Si ça évolue, tant mieux. C'est pas moi qui vais souhaiter qu'il y ait des fake news, qu'il y ait des degrés d'influence et autres. Si à un moment il n'y a plus, j'irai voir ailleurs, dans une autre lumière, et j'essaierai de le trouver. Donc moi, je vis au jour le jour, et de toute façon, il faut évoluer avec son temps. Donc moi, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là.
Merci Nicolas Van Der Beest. Je renvoie les personnes qui souhaitent en savoir plus à votre blog www.reputatiolab.com. Pour la version longue de cet entretien, ce sera la semaine prochaine sur l'Atelier des médias. Une émission signée Simon Decreuse, Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche et Ziad Malouf. Salut à toutes et à tous. Pour nous réentendre, pensez podcast.